Bien, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être venus si nombreux pour cette première salve de textes rassemblés par Dominique Bourgeois-Blanquet et Florence de Grette en l'honneur de Shakespeare, Shakespeare dans l'atelier romanesque. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous avez vu qu'on ne n'emploiera pas de micro. Non, pas trop bien. Et au fond de la salle, est-ce que ça va?
Oui, ça va.
À peu près, comme ça, ça irait?
Oui.
Voilà. Donc, je me présente d'abord moi-même. Je suis Daniel Loaiza, le conseiller artistique du théâtre, ce qui n'est pas beaucoup dire. Sinon, que je suis très heureux d'enchanter Dominique Bourgeois-Blanquet, qui est présidente de la Société française Shakespeare, et qui vient de publier d'ailleurs à ce titre une très belle série de lettres à Shakespeare, dont je vous recommande la lecture, des lettres adressées par des auteurs contemporains, ceux-là. Florence, qui est professeure à Paris 3, est une spécialiste, j'allais dire émérite, mais elle est un peu jeune pour ça tout de même, une spécialiste de théâtre, et en particulier de théâtre romantique. Elle a consacré sa thèse au théâtre romantique, et vous pourrez constater qu'elle est intarissable en la matière. Voilà. Quant à Jacques Bonafé, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le présenter. Jacques nous a fait l'honneur et l'amitié de lire presque au débeauté ce choix de texte dont je ne vous révélerai pas la teneur, parce que ça fait partie du plaisir, le plaisir de la surprise, de cette promenade thématique tout de même, puisque le thème du jour, si ma mémoire est bonne, c'est le doute et les ombres. Et pour nous guider dans ce dédale d'ombres et de doutes signé Shakespeare, Dominique Bourgeois-Blanquet a choisi de concentrer la sélection autour de deux guides, Hamlet et, vous vous en doutez, Ophélie. Mais tous les écarts sont permis. Et quant à l'ordre des textes, on ne peut pas dire qu'il soit strictement chronologique, mais il y a tout de même une petite tendance à commencer par les origines, à savoir par Voltaire. Alors Dominique, je vous laisse introduire le premier texte. Ce sera, je pense, la règle de ces soirées. À tour de rôle et sans alterner strictement, nous présenterons tour à tour en quelques mots les textes que Jacques ensuite nous lira. Dominique.
Merci Daniel. Donc oui, bien sûr, Voltaire commence la grande histoire de Shakespeare. C'est une histoire qui l'a mené jusqu'à maintenant où il est l'auteur le plus joué en France, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et son succès a connu des hauts et des bas. Voltaire l'a découvert pendant qu'il était en exil à Londres et il se vante de l'avoir fait connaître au public français, mais il est revenu assez vite sur son premier enthousiasme quand il sent vaciller l'édifice classique, et il fait la liste à ce moment-là des infractions commises par le barbare, comme il l'appelle, dans plusieurs textes, mais notamment, que va nous lire Jacques, la dissertation sur la tragédie ancienne et moderne qui deviendra la préface à Sémiramis.
La tragédie d'Hamlet est une pièce grossière et barbare qui ne serait pas supportée par la plus vive populace de la France et de l'Italie. Hamlet y devient fou au second acte et sa maîtresse devient folle au troisième. Le prince tue le père de sa maîtresse, feignant de tuer un rat, et l'héroïne se jette dans la rivière. On fait sa fosse sur le théâtre, des fossoyeurs disent des colibés dignes d'eux en tenant dans leurs mains des têtes de mort. Le prince Hamlet répond à leur grossièreté abominable par des folies non moins dégoûtantes. Enfin, pendant ce temps-là, un des acteurs fait la conquête de la Pologne. Hamlet, sa mère et son beau-père boivent ensemble sur le théâtre. On chante à table, on s'y querelle, on se bat, on se tue. On croirait que cet ouvrage est le fruit de l'imagination d'un sauvage ivre. Mais parmi ces irrégularités grossières qui rendent encore aujourd'hui le théâtre anglais si absurde et si barbare, on trouve dans Hamlet, par une bizarrerie encore plus grande, des traits sublimes, dignes des plus grands génies. Il semble que la nature se soit plu à rassembler dans la tête de Shakespeare ce qu'on peut imaginer de plus fort et de plus grand, avec ce que la grossièreté sans esprit peut avoir de plus bas et de plus détestable.
Alors, il y a quand même quelques amateurs éclairés qui résistent au dictat du bon goût de Voltaire, notamment un courant qui est venu d'Allemagne avec les conférences que donne à Paris Schlegel, Germaine de Staël, Nodier, Talma, qui a vécu plusieurs années en Angleterre, à Londres, est un grand admirateur de Shakespeare, et il joue le Hamlet de Ducis. Lequel Ducis a remplacé, pour vous donner un exemple, le fantôme par une urne dans laquelle sont contenues les cendres du roi mort. Mais malgré ces amateurs, le climat dominant est devenu anglophobe. Il y a eu en 1822, un an après la mort de l'empereur, ce qui explique peut-être cette réaction, une troupe d'acteurs anglais qui était venue jouer Othello, qui s'est fait siffler et bombarder de tomates en étant accusé d'être des suppôts de Wellington. Et ils ont provoqué une réaction indignée de Stendhal, qui a écrit à ce moment-là, pour les Happy Few, Shakespeare et Racine. Racine et Shakespeare, pardon. Nous sommes donc en 1822, 5 ans plus tard, revirement.
Revirement, 5 ans plus tard, en 1827 et 1828, pendant cette saison-là, une nouvelle troupe anglaise vient à Paris jouer de nouveau Shakespeare en anglais, et cette fois-ci, c'est un triomphe. La plupart des romantiques ont assisté à ces mises en scène d'Othello, de Roméo et Juliette, d'Hamlet, et les acteurs de la troupe ont séduit. Alors, il y en a une qui a tout particulièrement séduit, c'est Harriet Smithson, qui jouait Juliette et qui jouait Ophélie. Elle a fini par épouser Berlioz. Keane aussi a beaucoup plu à Dumas, qui lui a consacré une pièce, qui a écrit une pièce à son sujet. Charles Campbell, qui jouait Hamlet, a beaucoup fasciné. Dans le texte qu'on va entendre, il est question de lui, notamment par sa réputation dans le rôle d'Hamlet. Il jouait pendant la scène des comédiens avec une gestuelle qu'on n'avait jamais vue sur la scène française, c'est-à-dire couché par terre, et il rampait jusqu'à sa mère et son oncle pour les surprendre dans la scène des comédiens. Et ces différentes mises en scène, ces différentes trouvailles scéniques, les jeux de scène trouvés par les acteurs, ont été immortalisés par Delacroix dans ces lithographies. Alors, dans le texte qu'on va entendre, qui est extrait des mémoires de Dumas, vous avez le témoignage de Dumas du souvenir de ces représentations-là. Dumas, du reste, avait découvert le théâtre quand il était tout jeune avec une mise en scène de Hamlet. Dans l'adaptation du 6, dont a parlé Dominique tout à l'heure, ça avait été une révélation pour lui. Mais là, il s'agit d'Hamlet en anglais, donc d'après Dumas, dans ses mémoires.
Je savais déjà à cette époque Shakespeare à peu près par cœur, mais les pièces de théâtre, comme disent les Allemands, sont faites pour être vues et non pour être lues. Je m'étais donc privé de cette première représentation et j'attendais mes Anglais à Shakespeare. Ils annoncèrent Hamlet. Cette fois, je n'avais garde d'y manquer. Je quittais le bureau à 4 heures et j'allais prendre ma place à la queue, un peu mieux renseignée cette fois que je n'ai été lors de mon premier voyage à Paris. Je savais si bien mon Hamlet que je n'avais pas eu besoin d'acheter le libretto. Je pouvais suivre l'acteur traduisant les mots au fur et à mesure qu'il les disait. J'avoue que l'impression dépassa de beaucoup mon attente. Ken était merveilleux dans le rôle d'Hamlet. Miss Simpson, adorable dans celui d'Ophélia, la scène de la plateforme, la scène de l'éventail, la scène des deux portraits, la scène de la folie, la scène du cimetière me bouleversèrent. À partir de cette heure seulement, j'avais une idée du théâtre et de tous ces débris des choses passées que la secousse reçue venait de faire dans mon esprit. Je comprenais la possibilité de construire un monde. C'était la première fois que je voyais au théâtre des passions réelles animant des hommes et des femmes en chair et en os. Les représentations se suivirent avec une vogue croissante. À Hamlet succéda à Juliette, puis Othello. Et puis enfin, les uns après les autres, tous les chefs-d'œuvre de la scène anglaise. Le 10 septembre, les acteurs anglais clôturèrent la série de leurs représentations, me laissant le cœur tout haletant d'impressions inconnues, l'esprit illuminé de lueurs nouvelles.
Dumas, du reste, écrira quelques années plus tard, avec Paul Meurice, le bon ami de Victor Hugo, une nouvelle traduction d'Hamlet en 1847. Et très vite, après cette tournée des acteurs anglais, Vigny lui-même s'y met et élabore des traductions, adaptations de Roméo et Juliette et aussi d'Othello sous le titre Le Mort de Venise. On va maintenant lire un extrait d'une pièce de Musset, André Del Sarto, qui condense un certain nombre de thèmes empruntés à Shakespeare que l'on retrouve dans beaucoup de pièces romantiques, car l'influence, elle a été évidemment aussi pour les romantiques, elle se manifeste également à l'emprunt d'un grand nombre de motifs shakespeariens. Parmi ces motifs, il y a l'amour contrarié et le suicide des amants, par exemple à la fin d'Hernani, qui est une réécriture de Roméo et Juliette. Il y a aussi le devoir de vengeance. On trouve ce motif emprunté à Hamlet, qui se fait un devoir de venger son père, dans Hernani, puisque c'est aussi ce devoir de venger son père, hein, suivi jusqu'au presque à l'aveuglement, qui mène Hernani à la mort. Il y a aussi parmi ces thèmes qu'on trouve abondamment dans le drame romantique, le thème de la culpabilité, hérité de Lady Macbeth. On trouve de nombreuses figures de femmes politiques ou de grandes reines criminelles dans le drame romantique, telles Marguerite de Bourgogne dans La Tour de Nesle, qui a été un des plus grands succès du drame romantique en son temps, même si cette pièce de Dumas est aujourd'hui oubliée. En revanche, on joue cette année 4 Lucrèce Borgia à Paris. Eh bien, Lucrèce Borgia, c'est aussi une grande figure de femme criminelle, comme Marie Tudor, du même Hugo, chez qui on trouve toujours ce souvenir de Lady Macbeth, non pas sous la forme des mains lavées dans une scène de somnambulisme, non, mais sous la forme d'une scène à un moment ou une autre où la grande criminelle se repent de ses crimes. Un autre thème qu'on trouve abondamment dans le drame romantique, c'est celui du choix entre le rêve, la littérature, les arts et l'action. L'action politique, hein, directe, hein, voire le crime politique. C'est le cas dans Lorenzaccio, qui est un personnage très très imprégné d'Hamlet. Alors, dans la scène qu'on va entendre, on trouve ces quatre thèmes. L'amour contrarié, le devoir de vengeance, le crime, et puis la concurrence entre les études et les arts d'un côté et l'action de l'autre. Il s'agit d'une scène d'André del Sarto, donc cette pièce de Musset, dont le personnage principal est le peintre italien Andrea del Sarto. Dans cette scène, il vient de comprendre que son meilleur ami l'a trompé avec sa femme, et non seulement l'a trompé, mais aussi a tué son fidèle serviteur.
Vois-tu ce stylet, Cordiani ? Si maintenant je t'étendais à terre d'un revers de ma main, et si je t'enterrais au pied de cet arbre-là, dans ce sable, voilà ton ombre, le monde n'aurait rien à me dire. J'en ai le droit, et ta vie m'appartient. Crois-tu que ma main tremblerait ? Pas plus que la tienne. Il y a une heure, sur la poitrine de mon vieux grémiot, tu le vois, je le sais, tu me l'as tué. À quoi t'attends-tu à présent ? Penses-tu que je sois un lâche et que je ne sache pas tenir une épée ? Es-tu prêt à te battre ? N'est-ce pas là ton devoir et le mien ? Assieds-toi et écoute. Seul parmi tant de peintres illustres, je survis, jeune encore au siècle de Michel-Ange, et je vois de jour en jour tout s'écrouler autour de moi. Rome et Venise sont encore florissantes, notre patrie n'est plus rien. Crois-tu que ce soit peu de chose pour un homme qui a vécu son art 20 ans que de le voir tomber ? Mes ateliers sont déserts, ma réputation est perdue. Je n'ai point d'enfant, point d'espérance qui me rattache à la vie. Ma santé est faible. Et le vent de la peste qui souffle de l'Orient me fait trembler comme une feuille. Dis-moi, que me reste-t-il au monde ? Suppose qu'il m'arrive dans mes nuits d'insomnie de me poser un stylet sur le cœur. Dis-moi, qui a pu me retenir jusqu'à ce jour ? Ce que tu vois là, Cordiani, cet être souffrant et misérable qui est devant toi, que tu as vu depuis 10 ans errer dans ces sombres portiques, ce n'est pas là André del Sarto. C'est un être insensé, exposé au mépris, aux soucis dévorants. Je suis fait à la patience. Pour me faire aimer de cette femme, j'ai suivi durant 2 années son ombre sur la terre. La poussière où elle marche est habituée à la sueur de mon front. Arrivé au terme de la carrière, je recommencerai mon ouvrage. Qui sait ce qui peut advenir de la fragilité des femmes ? Cordiani, ta main, André. Un éternel adieu, mais un adieu, André. Je ne le puis. Il y a du sang après la tienne.
Nous allons faire un saut maintenant de 20 ans, 20 ans tout rond, pour rejoindre Flaubert, puisque Andrea del Sarto date de 1833 et que la lettre à Louise Collet que Flaubert, dont nous avons tiré un extrait, date de juin 1853. En 20 ans, le romantisme et l'histoire de France ont changé de face. Andrea del Sarto date de 3 ans après les Trois Glorieuses. Flaubert, lui, écrit sa lettre 5 ans après 1848. Mais c'est du point de vue littéraire que cette lettre est intéressante. Cependant, comme ces quelques lignes sont claires, je relèverai peut-être les 2-3 points qui ont plus particulièrement retenu mon attention après la lecture de Jacques.
Je trouve l'observation de Musset sur Hamlet celle d'un profond bourgeois. Et voici en quoi. Il reproche cette inconséquence. Hamlet sceptique lorsqu'il a vu par ses yeux l'âme de son père. Mais d'abord, ce n'est pas l'âme qu'il a vue. Il a vu un fantôme, une ombre, une chose matérielle, vivante, et qui n'a aucun lieu dans les idées populaires, aucun lien dans les idées populaires et poétiques. Reportons-nous à l'époque avec l'idée abstraite de l'âme. C'est nous, métaphysiciens et modernes, qui parlons ce langage. Et puis Hamlet ne doute pas du tout au sens philosophique. Il rêve. Un paysan de nos jours peut encore parfaitement voir un fantôme et revenu au grand jour le lendemain réfléchir à froid sur la vie et la mort, mais non sur la chair et l'âme. Hamlet ne réfléchit pas sur des subtilités d'école, mais sur des pensées humaines. C'est au contraire ce perpétuel état de fluctuation d'Hamlet, ce vague où il se tient, ce manque de décision dans la volonté et de solution dans la pensée qui en fait tout le sublime. Mais les gens d'esprit veulent des caractères tout d'une pièce et conséquents, comme il y en a seulement dans les livres. Il n'y a pas au contraire un bout de l'âme humaine qui ne se retrouve dans cette conception. Ulysse est peut-être le plus fort type de toute la littérature ancienne et Hamlet de toute la moderne.
Pour le dire en un mot, ce qui me frappe dans cette lettre de Flaubert, c'est d'abord le scrupule historique avec lequel il lit le texte de Shakespeare. En somme, Flaubert propose de retirer nos lunettes cartésiennes pour lire Shakespeare avant Descartes, pour lire Shakespeare avant le Cogito, pour lire Shakespeare avant la séparation de l'âme qui réside, comme chacun sait, dans la glande pinéale, et du corps. La chose que voit Hamlet est une chose matérielle vivante. C'est une chose matérielle vivante qui pose un problème à tous les metteurs en scène, évidemment, qui pose aussi un problème à tous les lecteurs et commentateurs de Shakespeare. La question du spectre dans Hamlet est une question essentielle et Flaubert met parfaitement le doigt dessus. Par ailleurs, le doute de Hamlet, lui non plus, n'est pas un doute cartésien, ce n'est pas un doute philosophique, c'est un doute de rêveur, c'est un doute concret, un doute engagé, un doute incarné. Et ce n'est donc pas un doute qui donne à voir une spéculation abstraite, c'est un doute vécu. Contrairement à ce que voudrait Musset et que semble lui reprocher Flaubert, Shakespeare ne compose pas des personnages cohérents, il ne cherche pas à créer des personnages à partir d'une cohérence, d'une non-contradiction psychologique supposée. Flaubert, ici, on sent que Flaubert est en train de travailler son réalisme. Il écrit cette lettre 4 ans avant Madame Bovary, qui a alimenté l'écriture de Flaubert pendant qu'il travaillait son roman. Il est dans sa forge de réalisme, et ce réalisme n'est pas un réalisme qui s'appuie sur une conception superficielle de la non-contradiction d'un personnage. Au contraire, la contradiction étant humaine et vécue, elle aussi doit être restituée dans le texte. Et c'est ce pourquoi Flaubert admire Shakespeare et fait ce reproche à Musset. Voilà pour une petite parenthèse qui nous a transporté 20 ans au-delà de la génération du romantisme de 1830, mais nous allons y revenir à présent.
Oui, tu disais, Daniel, Hamlet ignore le principe de non-contradiction. Et on peut dire que pour les romantiques, la contradiction dans laquelle ils sont, c'est une contradiction qui est historique, hein, d'une part. Hein, c'est aussi certainement pour ça qu'ils se retrouvent dans Hamlet. La question de l'utilité de l'action politique ou non, à une époque où, sous la Restauration, les deux frères du roi qui on a coupé la tête sont revenus au pouvoir, donc avec cette idée d'une histoire hors de Ségon. Et puis, il y a finalement, derrière ce doute hamlétien dont parlait Daniel aussi, une réappropriation à laquelle se livrent les romantiques. Et on peut dire que Hamlet, c'est un personnage emblématique aussi bien de ce que Chateaubriand a appelé le « vague des passions », le mot « vague hein, » était dans le texte que nous avons entendu, ou bien ce que Musset appelle le mal du siècle, ou encore ce que Baudelaire en appellera le spleen, reprenant ce mot anglais de spleen, qu'on peut traduire par dépression ou mélancolie, ou Dominique, tu as peut-être d'autres termes à proposer.
On dit
spleen en français depuis longtemps. Depuis quand?
Depuis bien avant.
Eh bien, je ne saurais pas dire exactement quand le mot est entré dans la langue, mais en tout cas, ce n'est pas Baudelaire qui l'a fait entrer dans la littérature française. Avant lui, Vigny, dont nous allons entendre un extrait, Vigny, dans un roman qui s'appelle Stello, l'utilise. Et donc, on va entendre un texte où le personnage principal du roman, Stello, discute avec son double, en quelque sorte, le docteur Noir, qui essaye de sonder son âme et les méandres de sa pensée. Et Stello explique qu'il est sujet au spleen, et il va essayer de savoir si cette maladie à laquelle dont il est victime est une maladie qui aurait des sources physiques, peut-être, et vous allez voir qu'il s'interroge en utilisant la phrénologie de Gall, dont il semble être un adepte, et donc vous allez voir comment il essaye de calculer, selon les bosses de son front, si par hasard il ne serait pas atteint de manière physique, physiologique, de cette mélancolie, de ce spleen. On ne peut pas ne pas entendre dans l'évocation du crâne, ici, un petit écho à celui de Yorick.
« Ah, Dieu soit loué !» s'écria Stello en levant les yeux. « Voici un vivant !»« Et c'est vous ! Vous qui êtes le médecin des âmes, quand il y en a qui le sont tout au plus du corps !» Vous qui regardez au fond de tout, quand le reste des hommes ne voit que la forme et la surface. Or, il faut le dire hautement, depuis ce matin, j'ai le spleen. Un tel spleen que tout ce que je vois depuis qu'on m'a laissé seul m'est en dégoût profond. J'ai le soleil en haine et la pluie en horreur. Le soleil est si pompeux, aux yeux fatigués d'un malade, qu'il me semble un insolent parvenu. Et la pluie, ah, de tous les fléaux qui tombent du ciel, c'est le pire à mon sens. Je crois que je vais aujourd'hui l'accuser de ce que j'éprouve. Quelle forme symbolique pourrais-je donner jamais à cette incroyable souffrance? J'y entrevois quelques possibilités grâce à un savant. Honneur soit rendu au bon docteur Gall, pauvre crâne que j'ai connu. Il a si bien numéroté toutes les formes de la tête humaine que l'on peut se reconnaître sur cette carte comme sur celle des départements, et que nous ne recevrons pas un coup sur le crâne sans savoir avec précision quelle faculté est menacée dans notre intelligence. Eh bien, mon ami, sachez donc qu'à cette heure où une affliction secrète a tourmenté cruellement mon âme, je sens autour de mes cheveux tous les diables de la migraine qui sont à l'ouvrage sur mon crâne pour le fendre. Il y a un farfadé, grand comme un moucheron, là, tout frêle et tout noir, qui tient une scie d'une longueur démesurée et l'a enfoncée plus d'un moitié sur mon front. Il suit une ligne oblique qui va de la protubérance de l'idéalité numéro 19 jusqu'à celle de la mélodie au-devant de l'œil gauche numéro 32. Et là, dans l'angle du sourcil, près de la bosse de l'ordre, sont blottis 5 diablotins, entassés l'un sur l'autre comme des petites sangsues et suspendus à l'extrémité de la scie pour qu'elle s'enfonce plus avant dans ma tête. Hélas ! Hélas, mon Dieu ! Pourquoi avez-vous permis à ces petits monstres de s'attaquer à cette bosse du merveilleux ? C'était la plus grosse sur toute ma tête, et celle qui me fit faire quelques poèmes qui m'élevaient l'âme vers le ciel inconnu. Comme aussi toutes mes plus chères et secrètes folies. S'ils la détruisent, que me restera-t-il en ce monde ténébreux? Cette protubérance toute divine me donna toujours d'ineffables consolations. Ah, mon ami, si vous pouviez voir sur ma tête ces impitoyables farfadets, vous concevriez à peine qu'il me soit possible de supporter la vie. Tenez, les voilà tous à présent réunis, amoncelés, accumulé sur la bosse de l'espérance, qu'il y a longtemps qu'ils travaillent et labourent cette montagne, jetant au vent ce qu'ils en arrachent. Hélas, mon ami, ils en ont fait une vallée si creuse que vous y logeriez la main tout entière. En prononçant ces dernières paroles, Stello baissa la tête et la mit dans ses deux mains. Il se tut et soupira profondément. Le docteur demeura aussi froid que peut l'être la statue du Tsar en hiver à Saint-Pétersbourg et dit... Vous avez les diables bleus, une maladie qui s'appelle en anglais Blue Devil.
Eh Alors, à la suite de ces différents écrivains, l'hamlétisme s'empare de la France. De tout le canon, c'est Hamlet, la pièce qui inspire le plus grand nombre d'artistes et d'écrivains. Shakespeare, en tombant sur moi à l'improviste, me foudroya, écrit Berlioz. Delacroix était présent aussi à la représentation de l'Odéon. Et il consacrera à Shakespeare une quinzaine de toiles et 16 lithographies inspirées de Hamlet qui vont jouer un rôle non négligeable dans la vague de l'hamlétisme. On peut les voir, d'ailleurs on a la chance en ce moment de les avoir toutes réunies au musée Delacroix pour une exposition en l'honneur de l'anniversaire de Shakespeare. Alors, Théodore de Manville raconte dans son journal que le jeune Baudelaire avait cloué la collection complète des lithographies sans cadre sur les murs de son logement quai d'Anjou. Et Baudelaire consacre tout un chapitre au vrai peintre du XIXe siècle dans le salon de 1846, puis un éloge de l'œuvre de Delacroix lors de l'exposition de 1855. Et il s'en prend à ceux qui l'ont si absurdement, si niaisement critiqué. Delacroix est le peintre aimé des poètes. Sa peinture a parcouru toujours avec succès le champ des hautes littératures, je cite Baudelaire. Certains de ses tableaux sont d'une beauté essentiellement shakespearienne. Aucun doute pour Baudelaire, le véritable génie du romantisme, ce n'est pas Hugo, c'est Delacroix. Et ce manifeste, je crois, enfin, pour l'artiste et pour le poète, je crois qu'on l'entend dans la Béatrice que va nous lire Jacques.
Dans des terrains cendreux, calcinés, sans verdure, comme je me plaignais un jour à la nature, et que de ma pensée, en vaguant au hasard, j'aiguisais lentement sur mon cœur le poignard, je vis en plein midi descendre sur ma tête un nuage funèbre et gros d'une tempête, qui portait un troupeau de démons vicieux, semblables à des nains cruels et curieux. À me considérer froidement qu'ils se mirent, et comme des passants sur un fou qu'ils admirent, je les entendis rire et chuchoter entre eux, en échangeant mains signes et mains clignements d'yeux. Contemplons un loisir cette caricature et cette ombre d'Hamlet imitant sa posture, le regard indécis et les cheveux au vent. N'est-ce pas grande pitié de voir ce bon vivant, ce gueux, cet histrion en vacances, ce drôle, parce qu'il sait jouer artistement son rôle, vouloir intéresser au chant de ses douleurs les aigles, les grillons, les ruisseaux et les fleurs, et même à nous, auteurs de ces vieilles rubriques récitées en hurlant ces tirades publiques. J'aurais pu, mon orgueil aussi haut que les monts, recevrait sans bouger le choc de cent démons, détourner simplement ma tête souveraine, si je n'eusse pas vu parmi leurs troupes obscènes, crime qui n'a pas fait chanceler le soleil. La reine de mon cœur, au regard non pareil, qui riait avec eux de ma sombre détresse, et leur versait parfois quelques sales caresses.
On voit donc comment a voyagé depuis les postures des acteurs anglais via les lithographies de Delacroix, cette ombre d'Hamlet imitant sa posture chez Baudelaire, qui va continuer donc à se propager dans le 19e siècle.
Jusqu'à la fin du 19e siècle. Et nous allons maintenant entendre justement ce commentaire de Banville, de Théodore de Banville, sur l'influence qu'a pu avoir la figure d'Hamlet, non pas seulement sur les hommes de théâtre, on en parlera tout à l'heure de la postérité d'Hamlet au théâtre au 19e siècle, mais aussi sur les poètes qui en font en quelque sorte une figure tutélaire de leur propre doute, et aussi sur les romanciers, puisque dans le texte qui va nous être lu maintenant, donc ce texte de Banville tiré de la Revue contemporaine littéraire du 25 mars 1885, une filiation est établie par Banville de Baudelaire jusqu'à Huysmans avec le personnage de Des Esseintes qui lui semble aussi très hamlétien.
Non mais spirituellement, d'où vient Baudelaire? Car le poète, pas plus que l'homme, ne naît sous un chou. Et comme dit Figaro, on est toujours fils de quelqu'un. Alors, ne cherchez pas. Le poète des Fleurs du Mal, qui fut avec Delacroix et Berlioz un des trois grands Shakespeareens de ce siècle, vient directement de Shakespeare, Baudelaire. Ou pour mieux le dire, de l'Hamlet de Shakespeare. Non qu'il ait été un singe d'Hamlet, mais la première fois qu'il lut l'immortel poème, il dut se retrouver lui-même, entendre le son de sa propre voix. Et cette parenté du douloureux poète avec Hamlet, si chacun de ses vers ne l'eût proclamé et crié sur tous les tons, il n'eût pas fallu encore être grand sorcier pour la deviner. Ah, si l'on pouvait être sincère, on avouerait que le jeune prince de Danemark n'a pas seulement inspiré des poèmes souffrants et divins à son frère tout semblable à lui, de même qu'il avait inspiré aussi les tendres et amoureuses ironies d'Henry Heine, mais il faudrait le confesser aussi, toutes les récentes névroses compliquées, musicales, idéalement torturées par la soif de l'exquis quintessentiel qui se croit si moderne et le son, viennent en droite ligne d'Elsener, et si désesseinte et si ennuyée de tout, c'est qu'il ne peut arracher de son souvenir la navrante chanson et la chère démence d'Ophélie.
Alors effectivement, il n'y a pas Hugo parmi les trois grands Shakespeareens que Sid Banville. Il y a des histoires de clans probablement qui se cachent derrière cette omission. Baudelaire, au moment du tricentenaire de l'anniversaire de Shakespeare, avait écrit une lettre très teigneuse au Figaro pour se plaindre justement de la mainmise du clan d'Olympio sur Shakespeare à l'occasion de cet anniversaire, et il leur reproche d'essayer de faire de Shakespeare un socialiste. Mais revenons à la démence d'Ophélie, parce que ça va être un autre grand thème d'inspiration. C'est l'autre versant de l'engouement pour la pièce. Toute une génération s'éprend pêle-mêle de Shakespeare, de son héroïne, de l'actrice donc Harriet Smithson, comme l'a dit Florence, elle va finir par épouser Berlioz, et une foule de peintres vont représenter le personnage sous les traits de la belle actrice. Pour Berlioz, c'est un double coup de foudre, il va écrire une série de pièces musicales, d'opéras. Et il n'est pas le seul, vous avez peut-être entendu en entrant le solo que chante Ophélie dans sa scène de folie dans l'opéra d'Ambroise Thomas, le Hamlet. Si l'appareil a marché. Berlioz compose plusieurs œuvres et parmi les présents au fameux Hamlet de l'Odéon, il y a également son ami Théophile Gautier. Pour Gautier, qu'on connaît pour Le Capitaine Fracasse, le roman de la momie, il y a un engagement très important avec Shakespeare. On va d'ailleurs le croiser à plusieurs reprises au cours de ces soirées. Et il va jouer un rôle influent, non seulement comme poète, on lui rendra souvent hommage dans les temps qui vont suivre, mais aussi comme chroniqueur et critique d'art. Baudelaire lui dédiera les Fleurs du Mal et divers compositeurs vont mettre en musique ses poèmes, comme cette chinoiserie que Jacques va nous lire.
Ce n'est pas vous, non, madame, que j'aime, ni vous non plus, Juliette, ni vous, Ophélia, ni Béatrix, ni même Laure la blonde avec ses grands yeux doux. Celle que j'aime à présent est en Chine. Elle demeure avec ses vieux parents dans une tour de porcelaine fine. Au fleuve jaune où sont les cormorants, elle a des yeux retroussés vers les tempes, un pied petit à tenir dans la main, le teint plus clair que le cuivre des lampes, les ongles longs et rougis de carmin. Par son treillis, elle passe sa tête que l'hirondelle en volant vient toucher, et chaque soir, aussi bien qu'un poète, chante le saule et la fleur du pêcher.
Alors évidemment, il y a un autre poème dédié à Ophélie que vous connaissez, c'est le jeune Rimbaud qui choisit, lui, de s'adresser à un autre arbitre des modes romantiques, qui est Banville, et il lui adresse trois poèmes en lui demandant s'il pourrait trouver place au Parnasse contemporain. « Ces vers croient, ils aiment, ils espèrent, c'est tout. Cher maître, à moi, levez-moi un peu, je suis jeune, tendez-moi la main. » Et donc, un des trois poèmes, c'est Ophélie.
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalis, voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau coucher en ses longs voiles la blanche Ophélia flotter comme un grand lys.
Nous avons là, avec cet extrait de l'Ophélie de Rimbaud qui date de 1870, un échantillon du Rimbaud très musical de ses débuts, qui semble, pour ainsi dire, extraire la matière du destin d'Ophélie des sonorités même de son nom. Ophélie comme un lys, Ophélie qui suscite des halalis, Ophélie qui finalement se noie dans l'eau initiale de son nom. Une Ophélie symbolique, une Ophélie qui est comme le fantôme d'elle-même, une Ophélie que le jeune Rimbaud semble prendre très au sérieux et semble prendre à cœur de restituer spectralement dans sa voix de poète. Mais 15 ans plus tard, le hamlétisme nouveau que le très jeune Rimbaud, toujours voyant, semblait annoncer, a voyagé vers d'autres terrains. Le fantôme d'Ophélie se décompose, pourrit dans l'eau, comme le royaume de Danemark, alors que la littérature des années 1880 se tourne vers des quintessences, pour reprendre le mot de Banville, des quintessences plus vénéneuses, vers des combinaisons plus ironiques, plus complexes, vers des écritures plus chantournées et sachant se moquer d'elles-mêmes, des écritures qui travaillent la syntaxe. Nous avons ici réuni un petit bouquet de 4 auteurs à la fois très proches, ils se connaissaient plus ou moins tous les uns les autres, et très très différents. Il y a d'abord Huysmans, Joris Karl Huysmans, qui avait 6 ans de plus que Rimbaud, puis Jules Laforgue, qui avait 6 ans de moins que lui, Villiers de l'Isle-Adam, qui a connu Huysmans, et enfin Mallarmé, qui a évidemment consacré à Hamlet un texte extraordinaire, fondamental, qui a été longuement commenté par Derrida et qu'on aurait du mal à décortiquer dans tout son détail ici. Pour commencer par le texte de Huysmans, qui s'intitule « L'émailleuse » et qui est un texte de son premier recueil de nouvelles et de poèmes en prose publié, il faut peut-être dire 2 mots pour apprécier tout le sel de l'extrait que va nous lire Jacques. « L'émailleuse », qu'on pourrait aussi appeler la maquilleuse, est une femme qui joue un rôle dans la triste histoire d'amour entre le peintre José et son Ophélie. Le peintre José a croisé sur les boulevards cette Ophélie chinoise, allusion évidente à Gautier et à son poème que nous venons d'entendre, de 1838. Il a trouvé son Ophélie chinoise et instantanément ébloui, amoureux, il a loué la chambre voisine de la sienne et a percé un trou dans la cloison pour pouvoir espionner ses mystères. Et en fait de mystère, il va découvrir...
Erreur fatale,
voilà. Il va découvrir, le malheureux, que cette Ophélie chinoise est une fabrication. Tous les matins, cette Ophélie se fait longuement maquiller, resculpter le nez à l'aide de pâte. Bref, son visage n'est qu'un masque et semble tout droit fait pour illustrer l'éloge du maquillage de Baudelaire, auquel évidemment Huysmans vouait un culte. D'où le désappointement du malheureux José, qui, évidemment, par ironie, se trouve être peintre. Nous avons donc le cas d'un peintre qui s'est laissé duper par une vulgaire maquilleuse travaillant pour une sorte de grisette. Voilà. L'ironie est d'autant plus amusante qu'évidemment, Huysmans joue ici sur la vieille histoire légendaire rapportée par Pline l'Ancien entre le peintre Parrhasios et le peintre Zeuxis, qui avait fait assaut de réalisme pictural. Zeuxis avait peint des raisins tellement vrais que les oiseaux des environs étaient venus les becqueter, en becqueter les grains. Voilà. Et sûr, si la nature elle-même reconnaissait le réalisme de ce tableau, il était sûr de l'emporter. Alors Parrhasios tendit la main vers son chevalet, et sur son chevalet était posée une pièce avec un rideau. Alors Zeuxis lui dit, mais qu'attends-tu pour tirer le rideau? Et Parrhasios a dit, fais-le toi-même. Et Zeuxis s'est aperçu que ce rideau était peint, et a donc été déclaré vainqueur, puisque Zeuxis pouvait tromper la nature, mais Parrhasios pouvait tromper le maître de l'artifice. Cette histoire est un peu une variation sur ce thème-là.
Amilcar arriva sur ces entrefaites, suivi d'un de ses amis qui était médecin. Ils eurent toutes les peines du monde à faire sortir de sa torpeur le malheureux José, qui ne parlait rien moins que de s'aller jeter dans la Seine. « Ce n'est, ma foi, pas la peine de se noyer pour si peu !» dit derrière eux une petite voix aigrelette. « Je suis Ophélie, mon gros père, et ne suis point si cruel que je vous laisse mourir d'amour pour moi. Profitons, si vous voulez, de l'absence du vieux pour aller visiter les magasins de soierie. J'ai justement l'envie d'une robe, je vous autoriserai à me l'offrir. « Oh non !» cria le peintre, profondément révolté par cette espèce de marché. « Je suis guéri à tout jamais de mon amour. » Entendre de telles paroles sortir de la bouche de sa bien-aimée ou recevoir sur la tête une douche d'eau froide, l'effet est le même, observa le poète Amilcar, qui dégringola les escaliers et, chemin faisant, rima immédiatement un sonnet qu'il envoya au lendemain à la belle enfant, sous ce titre quelque peu satirique, « Ô fleur de nénuphar ».
Le pauvre peintre fou d'amour est donc immédiatement dégrisé par les paroles de sa belle Ophélie silencieuse, dégrisé comme il aurait été par une douche froide, hein, technique habituelle à l'époque de soins aux malades mentaux. Quant au poète, lui, à défaut d'offrir une belle soirée à la belle Ophélie, belle tout de même, belle à travers l'artifice, plutôt que de lui offrir une soirée qui risquerait de lui coûter cher, ma foi, il lui suffira d'un sonnet. Voilà, c'est comme ça qu'il payera probablement le plaisir de coucher avec la femme qui avait fasciné son ami peintre. L'ironie est patente. Elle est peut-être plus discrète dans l'extrait de La Forgue, Hamlet ou les suites de la piété filiale, qu'il écrit en 1885, c'est-à-dire au moment même où Bonville écrivait cette lettre que tu as commentée à l'instant, Florence. En 1885, La Forgue a 25 ans et non pas 30, comme son personnage, mais il est clair qu'il s'agit d'un autoportrait souriant, plein de verve, très touchant. Et je vous recommande la lecture de l'intégralité de ce texte de La Forgue, parce que La Forgue, qui est mort à 27 ans, est à mon sens un des poètes les plus élégants et les plus touchants de son époque, et n'est pas... J'en profite pour faire cette publicité. Voilà.
De taille moyenne et assez spontanément épanouie, Hamlet porte pas trop haut une longue tête enfantine. Cheveux châtains s'avançant en pointe sur un front presque sacré et retombant plat et faible, partagé par une pure raie droite, scellés deux mignonnes oreilles de jeune fille, masque imberbe sans air glabre, d'une pâleur un peu artificielle mais jeune. Deux yeux bleu-gris, partout étonnés et candides, tantôt frigides, tantôt réchauffés par les insomnies. Fort heureusement, ces yeux romanesquement timides rayonnent en penseurs limpides et sans vase, car Hamlet, avec son air de regarder toujours en dessous, comme cherchant à tâter d'invisibles antennes le réel, ferait plutôt l'effet d'un camaldule que d'un prince héritier du Danemark. Enfin, je n'ai pas vérifié Daniel ce qu'était un camaldule.
C'est un moine de l'ordre des camaldules. Ils sont souvent chauves avec une longue barbe. Voilà.
Ferait plutôt l'effet d'un camaldule que d'un prince héritier du Danemark. Un nez sensuel, une bouche ingénue, ordinairement aspirante, mais passant vite du mi-clos amoureux à l'équivoque rictus de Gallinacé.
Et de cette moue dont les coins sont tirés par les boulets de la galère contemporaine au rire irrésistiblement fendu d'un joufflu gamin de 14 ans, le menton n'est, hélas, guère proéminent, guère volontaire non plus, l'angle du maxillaire inférieur, sauf au jour d'ennui immortel où la mâchoire, alors portant en avant et les yeux par cela même reculant dans l'ombre du front vaincu, tout le masque rentre, vieilli de 20 ans. Il en a 30. Annette a les pieds féminins, ses mains sont solides et un peu tortues et crispées. Il porte une bague à scarabée égyptien d'émail vert à l'index de la main gauche. Il ne s'habille que de noir et s'en va d'une allure traînarde et correcte, correcte et traînarde. D'une allure traînarde et correcte, Hamlet chemine donc de vers le cimetière au crépuscule. Il croise des troupeaux de prolétaires, vieux, femmes et enfants, revenant des bagnes capitalistes quotidiens, voûtés sous leur sordide destinée. Parbleu, songe Hamlet, je le sais aussi bien que vous, sinon mieux, l'ordre social existant est un scandale à suffoquer la nature. Et moi je ne suis qu'un parasite féodal. Mais quoi ? Ils sont nés là-dedans. C'est une vieille histoire. Ça n'empêche pas leur lune de miel, ni leur peur de la mort. Et tout est bien qui n'a pas de fin. Et oui, levez-vous un beau jour. Mais pour qu'alors ça finisse, mettez tout à feu et à sang, écrasez comme punaise d'insomnie les castes, les religions, les idées, les langues. Refaites-nous une enfance fraternelle sur la terre, notre mère à tous, qu'on irait pâturer dans les pays chauds. La montée du sentier qui mène à la grille du cimetière est pénible. Hamlet se renfrogne et froisse des coquelicots dans ses doigts. Il arrive trop tard, la cérémonie concernant Polonius est enterrée. Les dernières silhouettes officielles sortent. Hamlet s'accroupit derrière une haie pour les laisser passer sans être vu. Quelqu'un donne le bras à Laërte, fils du défunt, qui fait peine à voir. Une voix dit comme d'un poussé à bout. « Hé ! Quand on a un fou à la maison, on l'enferme !» En se relevant, Hamlet remarque qu'il vient d'endommager gravement une fourmilière. « Autant que faire, pensa-t-il, et pour que le hasard mais des obligations, et il achève la dite fourmilière à coups de talon. »
On ne peut pas résumer ici le superbe Hamlet de La Forgue, intitulé « Hamlet ou les suites de la piété filiale » et qui porte en exergue ces mots très simples « C'est plus fort que moi ». Mais rappelons tout de même que c'est largement aussi du Hamlet de La Forgue qui était parti Carmel Aubaine pour faire son adaptation, sa propre adaptation de Hamlet, et qui lui a d'ailleurs emprunté son titre, qui figure dans les dernières lignes du texte de La Forgue. Après la mort de Hamlet, en parenthèse, Hamlet finit poignardé d'un coup, avec un moyen d'un poignard réel, précise La Forgue, par Laërte, après une dispute pas tout à fait homérique, au-dessus de la fosse de la malheureuse Ophélie, qui de toute façon meurt dans toutes les variantes de l'histoire. Laërte lui dit « Hors d'ici, fou, où je m'oublie, quand on finit par la folie, c'est qu'on a commencé par le cabotinage. » À quoi Hamlet lui répond « Et ta sœur ?» Il se fait poignarder. Et une page plus loin, La Forgue conclut « Un Hamlet de moins, la race n'en est pas perdue, qu'on se le dise. » On a dû se le dire, puisqu'effectivement, les aventures de Hamlet ont continué, notamment chez Villiers-d'Isle-Adam. Enfin, elles ont continué, à vrai dire. Elles avaient anticipé celle du Hamlet de La Forgue, puisque les contes ont été publiés 2 ans auparavant. Et en l'occurrence, Hamlet fait une brève apparition dans Le désir d'être un homme, l'un des contes cruels de Villiers. Là aussi, il faut que je vous rappelle très brièvement l'intrigue.
À lire entièrement aussi.
Ah, ben, oui, oui, ben là aussi, je vous dévoilerai quand même le mot de la fin, parce que ce serait dommage de le laisser perdre. Mais dans ce texte court de quelques pages et très brillant, il est question d'un acteur vieillissant, bientôt à la retraite, et qui vient de solliciter d'une collègue comédienne, Mademoiselle Pinson, alors, qui a dit Villiers, qui a l'oreille du ministre et même l'oreiller, qui a donc demandé à son ami de bien vouloir lui obtenir une sinécure, un phare, une tour au-dessus de la mer, et même en pleine mer, quelque part dans le nord de la France. Il va donc prendre sa retraite, et au moment de la prendre, il va découvrir que finalement, lui, acteur, aura joué les émotions des autres, mais qu'il ne les aura pas vécues. Voilà à peu près la situation. J'en profite pour signaler en parenthèse que vous avez vu que lorsqu'il est question de Hamlet, il est souvent question de la tête et du front, et nous avons négligé de préciser qu'il est aussi question de la tour. Elsner est aussi une tour. Voilà. Elle devient ici un phare pour vieil acteur à la retraite.
Il fit une halte brusque, se campa de face vis-à-vis de son image et se toisa délibérément des bottes au chapeau. Puis, soudain, levant son feutre d'un geste qui sentait son autrefois, il se salua annonçant quelque courtoisie. Sa tête ainsi découverte à l'improviste permit alors de reconnaître l'illustre tragédien Esprit Chauval, né Le Painteur, dit Mont-Nanteuil, rejeton d'une très digne famille de pilotes malouins et que les mystères de la destinée avaient induit à devenir grand premier rôle de province, tête d'affiche à l'étranger et rival, souvent heureux, de notre Frédéric Lemaître. Chauval venait d'extraire de sa poche une large enveloppe d'où s'échappa sitôt rompu un pli ministériel qu'il ramassa fiévreusement et parcourut d'un coup d'œil sous le rouge feu du réverbère. Mon phare, mon brevet, s'écria-t-il. Sauvé, mon Dieu, ajouta-t-il comme par une vieille habitude machinale et d'une voix de fossé si brusque, si différente de la sienne qu'il en regarda autour de lui, croyant à la présence d'un tiers. Allons, du calme et soyons hommes, reprit-il bientôt. Mais à cette parole, Esprit Chauval, né Le Painteur, dit Mont-Nanteuil, s'arrêta comme changé en statue de sel. Ce mot semblait l'avoir immobilisé. Hein ? Continua-t-il après un silence. Que viens-je de souhaiter là ? D'être un homme ? Oh ! Après tout, pourquoi pas ? Il se croisa les bras, réfléchissant. Voici près d'un demi-siècle que je représente, que je joue les passions des autres sans jamais les éprouver, car au fond, je n'ai jamais rien éprouvé, moi. Je ne suis donc le semblable de ces autres que pour rire. Je ne suis donc qu'une ombre. Les passions, les sentiments, les actes réels, voilà ce qui constitue l'homme proprement dit. Donc, puisque là, je me force de rentrer dans l'humanité, je dois me procurer des passions ou quelques sentiments réels, puisque c'est la condition sine qua non sans laquelle on ne saurait prétendre au titre d'homme. Voilà qui est solidement raisonné, cela crève de bon sens. Choisissons donc d'éprouver celle qui sera le plus en rapport avec ma nature enfin ressuscitée. Il médita et puis reprit mélancoliquement l'amour, non trop tard. La gloire, que je l'ai connue. L'ambition, laissons cette bilvesée aux hommes d'État. Tout à coup, il poussa un cri. J'y suis. Le remords. Voilà ce qui sied au tempérament dramatique. Il se regarda dans la glace en prenant un visage convulsé, contracté, comme par une horreur surhumaine. C'est cela, conclut-il. Néron, Macbeth, Oreste, Hamlet, Érostrate, les spectres. Oh oui, je veux voir de vrais spectres à mon tour, comme tous ces gens-là qui avaient la chance de ne pas pouvoir faire un pas sans spectre. Il se frappa le front. Mais comment ? Je suis innocent comme l'agneau qui hésite à naître. Et, après un temps nouveau, « Ah, qu'à cela ne tienne !» reprit-il. « Qui veut la fin, veut les moyens. J'ai bien le droit de devenir à tout prix ce que je devrais être. J'ai droit à l'humanité. Pour éprouver des remords, il faut avoir commis des crimes. Eh bien, va pour les crimes. Qu'est-ce que ça fait du moment que ce sera pour le bon motif ? Oui, soit !» Et il se mit à faire du dialogue. « Je vais en perpétrer d'affreux. Quand ?» Tout de suite, n'en remettons pas au lendemain. Lesquels ? Un seul, mais grand, mais extravagant l'atrocité, mais de nature à faire sentir l'enfer. Ah, de l'en sortir de l'enfer toutes les furies. Et lequel ? Parbleu, le plus éclatant. Bravo, j'y suis. L'incendie. Donc,
Je n'ai que le temps d'incendier, de boucler les malles, de revenir dûment blotti derrière la vitre de quelques fiacres, jouir de mon triomphe au milieu de la foule épouvantée, de bien recueillir les malédictions des mourants et de gagner l'ordre. De gagner la bonne page. Le train du Nord-Ouest avec des remords sur la planche. Pour le reste de mes jours ensuite, j'irai me cacher dans mon phare, dans la lumière, en plein océan, où la police ne pourra par conséquent me découvrir jamais, mon crime étant désintéressé, j'y râlerai seul. Chauvel ici se redressa, improvisant ce vers d'allure absolument cornélienne, garanti du soupçon par la grandeur du crime. C'est dit. Et maintenant, acheva le grand artiste en ramassant un pavé après avoir regardé autour de lui pour s'assurer de la solitude environnante. Et maintenant, toi, tu ne reflèteras plus personne. Et il lança le pavé contre la glace qui se brisa en mille épaves rayonnantes.
Là-dessus, Chauvel passe à l'acte, exactement comme Néron a incendié Rome. Il va mettre le feu à tout un quartier ouvrier, il va faire plus de 100 victimes, puis va prendre le train et se réfugier sur son phare et attendre ses spectres. Or, les spectres ne viendront jamais. Jamais, ce sera son châtiment. Il attendra ses spectres, il hurlera pour ses spectres, mais il n'éprouvera aucun remords, aucun remords. Et le texte finit ainsi. « Des spectres, pour l'amour de Dieu, que je vois ne fût-ce qu'un spectre, je l'ai bien gagné. » Mais le Dieu qu'il invoquait ne lui accorda point cette faveur, et le vieux histrion expira, déclamant toujours, en sa vaine emphase, son grand souhait de voir des spectres, sans comprendre qu'il était lui-même ce qu'il cherchait. Ce qui nous amène à Mallarmé, et à son fameux texte de crayonner au théâtre, qu'on trouve dans ses divagations, qui date de 1886, c'est-à-dire 3 ans après le texte que Jacques vient nous interpréter, et 1 an après le Hamlet ou les suites de la Pitié filiale de La Forgue. Le texte de Mallarmé lui a été inspiré, comme crayonné au théâtre, par une mise en scène de Hamlet au cours de laquelle il a pu voir Mounet Sully interpréter le rôle de Hamlet. Et l'interprétation, l'incarnation du rôle par le comédien lui a inspiré un texte qui est sans doute difficile, mais qui est d'autant plus difficile qu'il superpose comme plusieurs strates dans son écriture. Ce sont à la fois les réactions d'un spectateur, les réflexions d'un spectateur particulier sur ce que Hamlet signifie pour lui, mais aussi les hypothèses d'un spectateur sur ce que Hamlet signifie pour tous et sur ce que signifie le concept de Hamlet, Hamlet entendu comme une sorte de modèle métaphysique de la condition humaine. Je ne vais pas anticiper sur les termes de Mallarmé, mais je rappelle simplement que dans ce même texte, Mallarmé qualifiait Hamlet de « la pièce que je crois celle par excellence ».
L'adolescent évanoui de nous au commencement de la vie et qui entra les esprits hauts ou pensifs par le deuil qu'il se plaît à porter, je le reconnais qui se débat sous le mal d'apparaître. Parce qu'Hamlet extériorise sur des planches ce personnage unique d'une tragédie intime et occulte. Son nom même affiché exerce sur moi, sur toi qui le lis, une fascination parente de l'angoisse. Le commerce de cieux où je m'identifiais cesse sans qu'une incantation brutale contemporaine occupe sur leur paravent de gloire ma place trop tôt renoncée. Adieu les splendeurs d'un holocauste damné élargi à tous les temps pour que ne s'en juxtapose à personne le sacre vin. Mais avance le Seigneur latent qui ne peut devenir juvénile ombre de tous, ainsi tenant du mythe
son solitaire drame, et qui parfois, tant ce promeneur d'un labyrinthe de troubles et de griefs en prolonge les circuits avec le suspens d'un acte inachevé, semble le spectacle même pourquoi existe la rampe ainsi que l'espace doré quasi moral qu'elle défend. Car il n'est point d'autre sujet, sachez-le bien, l'antagonisme de rêve chez l'homme avec les fatalités à son existence départie par le malheur. Toute la curiosité, il est vrai, dans le cas d'aujourd'hui, porte sur l'interprétation, mais en parler, impossible sans la confronter au concept. L'acteur mène ce discours. À lui seul, par divination, maîtrise incomparable des moyens et aussi une foi de lettré en la toujours certaine et mystérieuse beauté du rôle. Il a su conjurer je ne sais quel maléfice comme insinué dans l'air de cette imposante représentation. Ainsi m'apparaît rendue la dualité morbide qui fait le cas d'Hamlet, oui, fou en dehors et sous la flagellation contradictoire du devoir, mais s'il fixe en dedans les yeux sur une image de soi qu'il y garde intacte autant qu'une Ophélie jamais noyée, elle, prêt toujours à se ressaisir, joyau intact sous le désastre. Mime, penseur, le tragédien interprète Hamlet en souverain plastique et mental de l'art.
C'est un texte, évidemment, qui demanderait à être très longuement commenté. Là, une phrase qui me frappe à te l'entendre lire, Jacques, c'est d'entendre parler de Hamlet comme d'un promeneur d'un labyrinthe de troubles et de griefs, mais d'un labyrinthe dont il prolonge lieu les circuits avec le suspens d'un acte inachevé, comme si donc la présence et le mouvement de l'acteur, du comédien, sur la scène était inséparable du labyrinthe mental et prolongeait et n'extériorisait pas seulement, mais compliquait et faisait exister ce labyrinthe même, dont Mallarmé dit qu'il semble le spectacle même pourquoi existe la rampe. C'est dire à quel point Mallarmé porte haut la tragédie de Hamlet. C'est comme si l'existence de Hamlet était le noyau même qui fait advenir la théâtralité. C'est un texte difficile mais très impressionnant. Mais nous n'allons pas vous attarder trop à Mallarmé et à ce texte qui est vraiment inépuisable. Nous allons très vite passer à la génération suivante et aux positions nettement plus franches et tranchées d'un autre grand shakespearien nommé Claudel.
Pour Paul Valéry, Mallarmé est le premier qui ait vu clair dans le système de la littérature. Il le considère comme le premier atomiste littéraire qui fabrique des produits de synthèse en littérature par analogie avec la chimie. Les réactions vont commencer à se manifester contre Mallarmé, contre l'hamlétisme aussi d'ailleurs. Par exemple, en 1908, quand le premier numéro de la NRF éreinte Mallarmé avec une telle énergie que Gide va faire réécrire complètement et rééditer un deuxième numéro 1 qui paraîtra une année plus tard. Alors, le jeune Claudel que évoquait Daniel à l'instant, à ses débuts, en fait, il assistait très, très poli et très silencieux aux réunions de la rue de Rome, mais il va bientôt réagir contre ce qu'il appelle le néant morose qui conduit Mallarmé à se concentrer sur les formes, et il va prendre le contre-pied de l'hamlétisme. Alors il reniera son admiration juvénile, ce qu'il appelle l'admiration d'un rustre, d'un homme ignorant et maladroit face à un prodigieux virtuose. Parce que, dit-il, après Hérodiade, Mallarmé n'a plus fait que des bibelots poussiéreux. Et c'est ce qu'il va développer dans la catastrophe d'Iguitour, dont Jacques va nous lire un passage.
Oh, jusqu'à Mallarmé, pendant tout un siècle, depuis Balzac, la littérature avait vécu d'inventaire et de description. Flaubert, Zola, Lotti, Huysmans, Mallarmé est le premier qui se soit placé devant l'extérieur, non pas comme devant un spectacle, ou
comme un thème à devoir français, mais comme devant un texte, avec cette question, qu'est-ce que ça veut dire? Au dehors, il n'y a que la nuit sans espérance. Ce n'est même pas la peine de soulever les rideaux et de regarder par la fenêtre, mais comme le commandant du navire dans son blockhaus, tout garni d'organes de renseignement et de direction, le suprême Hamlet au sommet de sa tour, succédant à deux générations d'engloutis, tandis que l'inexorable nuit au dehors fait de lui pour toujours un homme d'intérieur, s'aperçoit qu'il n'est entouré que d'objets dont la fonction est de signifier qu'il est enfermé dans une prison de signes.
Alors ça n'empêche pas du tout Claudel d'éprouver pour Shakespeare une admiration sans borne, et il avouera même que quand on voit ma première version de Tête d'or, on retrouve partout l'influence de Shakespeare, de sa stylistique, de son répertoire d'images, son mouvement, enfin ses procédés de composition, et ils feront ensemble, ça va être une nouvelle ère, l'ouverture du Vieux Colombier.
Alors avec Gide, dont on va entendre l'extrait d'une lettre à Henri Guéon, on est dans la même tonalité que le texte de Claudel qu'on a entendu. Gide témoigne dans ce texte de son sentiment de spectateur après avoir vu Sarah Bernhardt interpréter le rôle d'Hamlet. Alors, je vais retracer un petit peu, pour introduire le commentaire de ce spectacle, l'histoire de la mise en scène d'Hamlet en France au XIXe siècle. On avait parlé des comédiens anglais qui viennent en 1827. Il y a une autre date vraiment importante, c'est 1847, le Hamlet de Dumas et Meurice, qui est joué au Théâtre historique de Dumas, puisque à cette époque-là, la comédie française en joue encore la vieille version de Ducis. Mais cette traduction de Dumas et Meurice, elle finira par entrer à la comédie française à la toute fin du siècle, en 1899, au moment précisément, en 1896, avec l'interprétation de Mounet-Sully. À la même époque...
Excuse-moi, je t'interromps une seconde. Oui, toute cette histoire est visible en ce moment au musée Victor Hugo avec tous les manuscrits des différentes étapes de la traduction de Dumas et Meurice. Excuse-moi.
La même année, 1896, Sarah Bernhardt, elle aussi, joue dans Hamlet et elle joue Ophélie. Ce rôle ne lui semble pas très très intéressant. C'est pourquoi, 3 ans plus tard, elle joue de nouveau dans Hamlet, dans la traduction de Marcel Schwob. Mais cette fois-ci, elle joue le rôle d'Hamlet. Et elle le joue évidemment en travesti. C'est une spécialité qu'elle s'est faite, puisqu'elle joue aussi dans les mêmes années le Lorenzaccio de Musset pour la création de Lorenzaccio en 1896. Elle joue aussi le rôle de Péléas dans la pièce de Maeterlinck. Elle joue aussi, toujours en travesti, le rôle de l'Aiglon à la création de la pièce de Rostand. Et elle dira d'ailleurs de ces différents rôles qu'ils ont quand même un point commun. Je puis dire que j'ai eu la chance rare et je crois unique de jouer 3 Hamlet. Le noir Hamlet de Shakespeare, l'Hamlet blanc de Rostand, l'Aiglon, et l'Hamlet florentin de Musset, Lorenzaccio. On a parfois dit que en jouant ces rôles masculins en travesti, Sarah Bernhardt les féminisait ou les affaiblissait ou en faisait voir leur contradiction, leur faiblesse ou leur maladie. Mais en réalité, elle ne concevait pas du tout son jeu du travesti de cette manière-là. Pour elle, il s'agissait de chercher des grands rôles, tout simplement. Elle en témoigne. On m'a souvent demandé pourquoi j'aime tant à représenter des rôles d'hommes, et en particulier pourquoi j'ai préféré celui d'Hamlet à celui d'Ophélia. En réalité, je ne préfère pas les rôles d'hommes, mais les cerveaux d'hommes. Et parmi tous les caractères, celui d'Hamlet m'a tenté entre tous parce qu'il est le plus original, le plus subtil, le plus torturé et cependant le plus simple pour l'unité de son rêve. Les rôles d'hommes sont en général plus intellectuels que les rôles de femmes. Voilà le secret de mon amour. Cet intellectualisme ne plaît guère à Gide, comme en témoigne sa lettre du 15 juin 1899 à Henri Guéon au sortir de la représentation.
Grâce à vos conseils toujours bons, j'ai voulu voir Hamlet. Je n'ai vu que Sarah Bernhardt. Malgré la remarquable traduction de Schwob, Hamlet m'a ennuyé à périr et je n'y ai quasiment plus rien compris. Telle que la joue Sarah, la pièce, dès le troisième acte, change de sujet. Je transcris ici quelques notes prises au lendemain de la représentation. Un caractère résolu, prétend-elle, prétend-elle trouver dans Hamlet ? Résolue, oui, mais réfléchie. Et tandis qu'Othello agit avant de penser, celui-ci pense avant d'agir. Il pense au lieu d'agir. Il est distrait de l'action par la pensée. Au début du drame, que voyons-nous ? Un homme inscrire sur les tablettes de son carnet et au plus profond de son cerveau qu'il a quelque chose à faire. Venger son père. Va-t-il agir ? Non, il réfléchira. Doit-il se fier au récit d'un fantôme ? Il s'agit de contrôler d'abord. Et dès lors, l'action, j'entends la vengeance, passe au second plan, se recule. Ce qu'il cherche, ce n'est pas l'action, c'est une raison d'agir. Il invente l'épreuve du spectacle. Il expérimente, il essaie, et le voilà qui, peu à peu, se distrait de l'action par les moyens mêmes qu'il employait pour se pousser à agir. À ce point que dans le quatrième acte, à peine est-il question de père à venger, mais bien d'Ophélie, de Laërte et de généralité vague où toute décision se perd. C'est là ce qui nous faisait dire qu'Hamlet avait changé de sujet. Non, car le sujet c'est la distraction d'Hamlet. Et il faudrait alors que par une habile gradation, qui est dans la pièce, l'acteur force le spectateur de penser, mais le malheureux, il oublie ce qu'il devait faire. Il oublie, et oui, et l'action, sinon le sujet bifurque et l'intérêt semble changer. Les moyens d'action ont pris la place de l'action même à ce point qu'il ne faut rien moins que l'angoisse d'une mort imminente pour rappeler à Hamlet son devoir. Alors soudain, de nouveau, tout disparaît. J'avais une chose à faire, je ne l'ai pas faite, et je meurs.
Alors non seulement les médecins, mais des écrivains comme Gide s'intéressent depuis longtemps à la santé mentale de Hamlet. Les peintres, Fuseli, Blake, Delacroix ont devancé l'interprétation des rêves en s'imprimant dans l'imagination collective. Et c'est la cavale nocturne, Nightmare, de Fuseli qui va décorer la couverture de l'ouvrage d'Ernest Jones, disciple de Freud, sur le cauchemar. Et c'est une gravure de cette œuvre qui se trouvait dans l'appartement de Freud à Vienne. Alors Freud, dans une lettre à Wilhelm Fliess, va rapprocher deux grands personnages littéraires qui vont constituer le socle de sa théorie, Œdipe et Hamlet. Donc c'est un passage qu'on retrouvera dans une note à la Traumdeutung. Donc c'est une lettre à Wilhelm Fliess du 15 octobre 1897.
Mais une idée m'a traversé l'esprit. Ne trouverait-on pas dans l'histoire d'Hamlet des faits analogues ? Sans parler des intentions conscientes de Shakespeare, je suppose qu'un événement réel a poussé le poète à écrire le drame, son propre inconscient lui ayant permis de comprendre l'inconscient de son héros. Comment expliquer cette phrase de l'hystérique Hamlet ? C'est ainsi que la conscience fait de nous tous des lâches. Comment comprendre son hésitation à venger son père par le meurtre de son oncle, lui qui n'a aucun scrupule à envoyer ses courtisans à la mort et qui n'hésite pas une seconde à tuer Laërte ? Tout s'éclaire mieux lorsqu'on songe au tourment que provoque en lui le vague souvenir d'avoir souhaité, par passion pour sa mère, de perpétrer envers son père le même forfait. Si nous étions traités selon nos mérites, qui pourrait échapper à la fustigation ? Sa conscience et son sentiment inconscient de culpabilité. Sa conscience et son sentiment inconscient de culpabilité. Sa froideur sexuelle au cours de son entretien avec Ophélie, sa réprobation de l'instinct qui pousse à procréer. Enfin, la façon dont il transfère sur la personne d'Ophélie l'acte qui vise son père, tout cela n'évoque-t-il pas des manifestations typiquement hystériques ? Ne réussit-il pas, finalement, de façon aussi singulière que mais hystérique, à attirer le châtiment sur lui-même, ce qui l'entraîne à subir le même sort que son père, et à être emprisonné par le même rival.
Alors avec Freud, évidemment, Hamlet va incarner la conscience individuelle, mais cette figure finalement extraordinairement plastique de Hamlet va trouver encore bien d'autres interprétations, et à ce propos, je voudrais rappeler un petit passage de Michel Serres récemment qui a replacé l'histoire de la psychanalyse avec une rigueur implacable dans l'histoire du XXe siècle. en évoquant les longues années de règne du dogme freudien dans les amphithéâtres et les salons. Pendant qu'on enseignait le meurtre du père, quelques personnes de par le monde décidaient, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, de mettre à mort des dizaines de millions de jeunes gens qui n'avaient pas plus de 25 ans. Et lui préfère parler du meurtre du fils sacrifié au monstre paternel de la guerre. Ce texte de Serre, qui date de 2007, me sert d'introduction pour parler d'un autre très grand texte où Hamlet incarne justement la conscience, non plus la conscience individuelle, mais la conscience en crise de toute l'Europe. C'est la célèbre lettre que Paul Valéry a publiée pour la première fois dans le Athénéum, en anglais donc, sous le titre « The Spiritual Crisis of France », en avril-mai 1919, à l'issue de ce massacre.
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprit. Nous ne pouvions pas les compter, mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Un frisson extraordinaire a couru la moelle de l'Europe. Elle a senti par tous ces noyaux pensant qu'elle ne se reconnaissait plus, qu'elle cessait de se ressembler, qu'elle allait perdre conscience, une conscience acquise par des siècles de malheurs supportables, par des milliers d'hommes du premier ordre, par des chances géographiques, ethniques, historiques innombrables. Maintenant, sur une immense terrasse d'Elsinore qui va de Bâle à Cologne, qui touche au sable de Nieuport, au marais de la Somme, au craie de Champagne, au granit d'Alsace, l'Hamlet européen regarde des millions de spectres, mais il est un Hamlet intellectuel. Il médite sur la vie et la mort des vérités. Il a pour fantôme tous les objets de nos controverses. Il a pour remords tous les titres de notre gloire. Il est accablé sous le poids des découvertes, des connaissances, incapable de se reprendre à cette activité illimitée. Il songe à l'ennui de recommencer le passé, à la folie de vouloir innover toujours. Il chancelle entre les deux abîmes, car deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre. S'il saisit un crâne, c'est un crâne illustre. Whose was it? Celui-ci fut Leonardo, et cet autre crâne est celui de Leibniz, qui rêva de paix universelle. Et celui-ci fut Kant. Kant qui génuit Hegel, qui génuit Marx, qui génuit. Hamlet ne sait trop faire, trop que faire de tous ses crânes. Mais s'il les abandonne, va-t-il cesser d'être lui-même? Son esprit affreusement clairvoyant contemple le passage de la guerre à la paix. Ce passage est plus obscur, plus dangereux que le passage de la paix à la guerre. Tous les peuples en sont troublés. Et moi, se dit-il, moi, l'intellectuel européen, l'intellect européen, que vais-je devenir? Et qu'est-ce que la paix? La paix est peut-être l'état des choses dans lequel l'hostilité naturelle des hommes entre eux se manifeste par des créations au lieu de se traduire par des destructions, comme le fait la guerre. C'est le temps d'une concurrence créatrice et de la lutte des productions. Mais moi, ne suis-je pas fatigué de produire? N'ai-je pas épuisé le désir des tentatives extrêmes et n'ai-je pas abusé des savants mélanges? Faut-il laisser de côté mes devoirs difficiles et mes ambitions transcendantes? Dois-je suivre le mouvement et faire comme Polonius, qui dirige maintenant un grand journal, comme Blair, qui est quelque part dans l'aviation, comme Rosencrantz, qui fait je ne sais quoi sous un nom russe? Adieu, fantôme. Le monde n'a plus besoin de vous, ni de moi. Le monde qui baptise du nom de progrès sa tendance à une précision fatale cherche à unir aux bienfaits de la vie les avantages de la mort. Une certaine confusion règne encore, mais encore un peu de temps et tout s'éclaircira.
nous verrons enfin apparaître le miracle d'une société animale, une paire parfaite et définitive fourmilière.
Valérie utilise donc Hamlet pour penser l'histoire de son temps, pour penser la barbarie des temps présents. Et Shakespeare a été souvent utilisé pour penser les métamorphoses de l'histoire, souvent à des époques très diverses, pour penser un présent contemporain auquel il ne pouvait évidemment pas deviner, mais c'est le propre du chef-d'œuvre que de pouvoir signifier encore bien des siècles après le moment où il a été écrit, dans des périodes historiques nouvelles. Alors, tout à l'heure, Dominique rappelait qu'au moment du tricentenaire, il avait été récupéré politiquement par le clan Hugo du côté du socialisme. Dans les années 33-34, à Paris, une mise en scène de Coriolan, donc ces années sont évidemment très dures politiquement, une mise en scène de Coriolan à la Comédie-Française fait scandale parce qu'elle est perçue par la critique de théâtre comme fascisante avec ce personnage de général dictateur qui traite les tribuns de la plèbe avec le plus grand mépris. Dans l'histoire, on sait aussi que Le Marchand de Venise a été une pièce ayant un succès immense sous le Troisième Reich et aussi dans l'État d'Israël, avec des interprétations évidemment complètement opposées. Et l'exemple que l'on va avoir de cette fécondité pour penser le présent et les troubles de l'histoire de Shakespeare, eh bien c'est un exemple qui est tiré d'un roman d'Aragon qui s'appelle « La mise à mort ». Et c'est un roman assez complexe dans sa structure narrative, puisqu'on a un narrateur avec sa muse, donc le narrateur Alfred avec sa muse Ingeborg, et puis le double du narrateur, qui est un écrivain, Antoine, avec sa muse, qui est un double d'Ingeborg, qui s'appelle Fougère. Et dans l'extrait qu'on va lire, l'extrait est tiré d'une nouvelle enchâssée, Murmure. Murmure est le nom de l'héroïne à laquelle est identifiée Ingeborg Fougère. Alors, le principe de cet extrait, c'est celui des récits enchâssés qui permettent au souvenir de se creuser de plus en plus à la faveur de l'enchâssement des récits. Le roman date de 1965, mais fait allusion au congrès de Vienne de 1952, ce congrès des peuples pour la paix, contemporain des procès de Prague, et où donc Aragon a appris les procès de Prague et l'exécution du secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. Et cette évocation elle-même fait naître le souvenir d'une mise en scène d'Hamlet en Russie dans les années 1930 au théâtre Vartangov. Et à partir de l'évocation de cette mise en scène d'Hamlet, eh bien, c'est finalement une réflexion qui ouvre la parole à Aragon pour l'autocritique du stalinisme.
Tout le Danemark nous entoure, et notre secret est le cœur des îles. Des voiliers sillonnent les détroits comme des papillons de nuit. Les châteaux éteints surplombent les siècles sanglants, les migrations, les invasions, les voyages. Il n'y a pas au monde de nuit plus noire que celle-ci qui s'en va vers la mer. Il n'y a pas dans le vaste monde un semblable lieu d'angoisse où tout soit ainsi immobile et suspendu comme une grande aile en l'absence du vent. Ou peut-être faudrait-il remonter aux heures d'Aulis, quand les armées des rois grecs n'attendaient que d'Iphigénie sacrifier l'espoir de faire voile vers la Troade, ou par l'épée ou la lance mourir plutôt que de la peste entrer en leur chair et leur tente au milieu de l'agonie et la puanteur. Tout le Danemark nous entoure de ces terres déchirées par la mer comme un châle d'île et de misère. Murmure, si le malheur, et moi donc, où m'aura-t-on enfoui, dans quel trou, sous quel mur, dans quel désert de toi? Il n'y aura point d'escalier dérobé, de couloir secret entre nos tombes. Mes eaux mêlées, jonchées, à ceux des criminels et des vagabonds, leur feraient hausser l'omoplate s'ils disaient,
comme flûtent encore nos amours, et le geste blanc d'éteindre ton ombre royale. Et si dans quelque cimetière d'Helsingor vient creuser le clown et chante, ce n'est pas moi qui demanderai si ce copain-là ne se rend pas compte de ce que c'est que son boulot de chanter à faire les tombes. Car vient le temps des fossoyeurs, et ce sera seule caresse si leur pelle heurte ma rotule et leurs pieds fait rouler mon crâne, de me rappeler ma jeunesse et quand j'aimais. Décembre 1952, j'ai dû voir quelque part ailleurs brusquement face à face un monstre. C'est le monstre que j'ai voulu, peut-être, et avec lui, tout ce qui l'entourait, ce qu'avait touché son ombre, la trace de son bras sur l'appui d'un fauteuil, le verre qu'il a renversé, le livre qu'il a jeté à terre, la fumée de sa pipe, ou son rire qui s'éteint. C'est le monstre que j'ai voulu, fût-ce au prix de moi-même, écarté, dissipé, oublié. Il ne s'est rien passé vraiment à Vienne. Cela se produisait ailleurs, quelque part dans le vaste monde. Et moi, je n'en ai pas supporté l'écho. Tout n'était que le résultat de choses niées, d'obscures raisons étrangères. Pourquoi, tout à coup, n'ai-je plus pu les supporter ? L'oubli. Et Hamlet, là-dedans, tu crois que c'était un démocrate, Hamlet ? Qu'il voulait le bien du peuple danois ? Il y a une chose que tu n'as jamais oubliée, en tout cas, dans les premières années 30, Hamlet au théâtre Vartangov à Moscou, un Hamlet bien rablé avec une tête comme une matmonde, un prince roux qui devait aimer manger et qu'on entendait à la cantonade jouer la comédie avec la troupe de passage, des coulisses d'une sorte d'arène. Les spectateurs, nous étions au dehors et ce que nous voyions, c'était le roi, l'usurpateur arrivé avec cet énorme manteau rouge tenant à peine aux épaules et tandis qu'il montait l'escalier vers la loge royale, suivi de négrillons portant la traîne immense du manteau, les paroles qui le frappent au cœur, ses crimes révélés dans la pièce et tout à coup il redescend à toutes jambes, si bien que le manteau s'envole et fait comme un immense paraf rouge à travers toute la scène de gauche à droite et de haut en bas. Là-bas, quand les artilleurs sont allés se coucher, qu'il ne reste plus que la brume et les sentinelles, le revenant est depuis si longtemps habitué à sa promenade que personne maintenant ne l'y remarque plus. A-t-il toujours mal à l'oreille ? Ou une autre reine de Danemark versa le plomb fondu pour vivre avec son amant ? A-t-il seulement jamais existé ? Ce roi qui revient entre 11h et minuit sur le bastion d'Angle. L'histoire de Danemark ne le connaît pas, mais c'est un véritable fantôme. Juste revanche de l'imagination sur la réalité.
Nous allons arrêter là notre parcours avec Hamlet et Ophélie, mais nous reviendrons pour d'autres lectures.
Dès demain.
Avec un tout autre univers.